Tout d'abord, donc, le portrait du mort en animal domestique, la fin est une citation, évidemment, parce que je ne me serais pas permis de parler ainsi, dans la mesure où le noir a été souvent considéré comme un être privé de culture et d'histoire, et qui souffre à cause de cela d'un certain nombre d'insuffisances que beaucoup d'hommes du 19e, ça rejoint ce qui a été dit, estiment irréversibles. Néanmoins, ce noir est porteur de qualités réputées essentielles pour les colonisateurs qui le dominent et l'exploitent, dans la mesure où, en effet, le noir est souvent loué pour sa docilité et ses capacités de travail dès lors qu'il est placé sous l'étroite surveillance des Blancs, qui peuvent ainsi l'employer à de nombreuses tâches. Sa capture, sa déportation, puis sa réduction en esclavage le prouvent. Il peut être aisément exploité. C'est pourquoi sa vie doit être en général préservée, pourvu, et c'est évidemment une condition essentielle, qu'il se tienne docilement à la place qu'on lui impose et à la place que son infériorité naturelle est supposée lui assigner. Privé de tout droit, maltraité et souvent torturé, l'esclave conserve malgré tout une valeur productive et marchande. Il est et demeure un moyen de production devant être entretenu afin qu'il puisse continuer de remplir sa fonction ou être vendu à bon prix. Plus généralement, je vous rappelle que dans le Code noir, le noir a le statut juridique d'un bien meuble. Plus généralement, la caractéristique essentielle du sauvage, dont le noir a longtemps été l'incarnation emblématique, c'est donc l'absence de toute civilisation, mais ce défaut peut devenir un trait positif dès lors que les relations qui s'établissent avec les races supérieures du vieux continent se mettent en place. Et pour les Français notamment, le sauvage est au fond une sorte de tabula rasa sur laquelle il est possible d'inscrire quelques-uns de leurs principes en soumettant ce sauvage à la dure mais supposée rédemptrice loi du travail. Grâce à elle, en effet, le noir va alors gravir quelques degrés dans la hiérarchie du genre humain et sur l'échelle des valeurs occidentales, ce qui lui confère un statut particulier dans la métropole et dans les colonies. Quant à l'animalisation pour les noirs des victimes, elle le rejette dans une catégorie précise puisqu'il est couramment assimilé à une bête de somme, obéissante et endurante à la peine. Il appartient donc à une espèce susceptible d'être apprivoisée et au terme de ce processus, qui l'arrache à son inquiétante primitivité, il devient un bon nègre, susceptible d'être employé à l'intérieur de la maisonnée par exemple. Là, il remplit avec bonheur, les fonctions de domestique, justement, ou d'animal de compagnie que l'on exhibe avec fierté dans les salons parisiens. Au siècle des Lumières, en effet, il n'est pas rare d'offrir, ou de se faire offrir, un négrillon ou une jeune négresse, afin d'égayer par une touche d'exotisme de bon aloi l'existence des femmes de l'aristocratie. Mais au même titre que les autres dépenses somptuaires indispensables pour tenir son rang, c'est bien rare, disent, le prestige, la magnificence et la considération qui est due à leur propriétaire. 100 ans plus tard, de tels comportements ne sont plus admissibles, mais dans l'univers colonial et post-colonial du XXe siècle, le boy, cet homme à tout faire qui vit souvent sur les lieux de travail et au voisinage immédiat de ceux qui le salarient, témoigne des mutations et de la permanence, sous des formes plus euphémisées, de telles représentations. J'en reviens à Gide, décrivant les domestiques mis à sa disposition au cours de son voyage au Congo, Gide note ceci. Ils sont d'une obligeance, d'une prévenance, d'un zèle au-dessus de tout éloge. Et il poursuit, prodigieusement malléable, les nègres deviennent le plus souvent ce que l'on croit qu'ils sont, ou ce que l'on souhaite. Mais, ajoute-t-il, je ne les crois pourtant capables que d'un très petit développement. Ces considérations racistes sont classiques et elles s'alimentent de la conviction commune alors que le blanc est supérieur au noir et que le premier doit traiter le second non comme un semblable, devant jouir de droits égaux, mais comme un éternel assujetti sur lequel il faut constamment veiller. Au sauvage correspond donc un mode particulier d'infériorisation qui, joint à l'animalisation, engendre des pratiques spécifiques. Et ces pratiques déterminent une politique qui, au fond, ressortit au dressage, où les violences sont courantes, mais néanmoins circonscrites par les buts poursuivis. Inculquer au noir, discipline, sens du labeur, et si possible respect pour le blanc qui le soustrait ainsi à sa sauvagerie native. Enfin, cette animalisation est soutenue, elle la soutient également par ce que j'appellerais une économie passionnelle particulière qui se caractérise par le paternalisme notamment. Paternalisme qui doit être considéré comme une configuration affective singulière, faite de mésestime, de dérision et de pitié, mobilisée à des fins pratiques de domination et d'exploitation. Tempérant ces deux premiers affects et les comportements qu'ils engendrent parfois, la pitié est aussi au principe d'une générosité entre guillemets intéressée, puisqu'elle a pour but de sanctionner de façon positive l'obéissance du noir et de la perpétuer par le recours à des signes matériels et symboliques destinés à préserver la fluidité des relations qui unissent ce dernier aux colons. Une race, et c'est une citation de Renan, une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre, écrit Renan en une courte phrase où il donne libre cours et à ce racisme et à ce paternalisme colonial indispensable pour assurer la pérennité d'une société qui repose sur l'asservissement économique, social et politique d'une race par une autre. Tout autre est la situation de l'arabe, et cela vaut également, me semble-t-il, pour l'Indien d'Amérique du Nord. Ils appartiennent tous deux à une civilisation, enfin plus exactement l'arabe, au pire entrée dans une décadence irréversible, au mieux jugée arriérée et imparfaite, comme l'écrit tranquillement Tocqueville, pour distinguer la société musulmane du XIXe des peuplades vivant dans d'autres régions d'Afrique. Depuis longtemps et demi du vieux continent, comme le passé et l'actualité des années 1840 en témoignent aux yeux des Français, c'est cette même civilisation qui fait problème, car elle est un obstacle majeur à la pacification sans laquelle il ne peut pas y avoir de colonisation durable. Barbare, islam et guerre de civilisation donc. À la différence du sauvage, le barbare, ici incarné par l'arabe, n'est pas incivilisé ou acivilisé, il est depuis des siècles au contraire mal civilisé, entre guillemets. Et au regard des conséquences pratiques qui en découlent, c'est beaucoup plus grave, car sa mauvaise civilisation, si intimement liée à sa religion, est la cause de son impossible domestication. Convaincu que le facteur religieux est essentiel à la compréhension du passé lointain et du présent de l'Algérie, puisque c'est de là que les problèmes partent, notamment l'Algérie du XIXe, les Français lui accordent une grande importance qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles ils affrontent des difficultés très grandes pour pacifier cette colonie. De plus, l'islam est considéré comme un élément majeur de différenciation entre sauvages et barbares, puisque les sauvages sont réputés, eux, soumis à des croyances sommaires et primitives, alors que les barbares disposent d'une véritable religion établie sur un livre révélé. Que la religion musulmane repose, je cite, sur l'exaltation de la guerre et sur des préceptes, je cite encore, commandant l'extermination de ceux qui sont en dehors d'elle, est une opinion parfaitement commune au XIXe siècle. Et nombreux sont en effet les contemporains qui ne cessent de comparer l'islam à la religion chrétienne, considérée bien sûr comme la seule bonne. Ainsi se construit un ensemble d'oppositions, d'où se déduit un tableau contrasté, divisé par une frontière culturelle et cultuelle importante. Cette frontière organise deux mondes, évidemment régis par des principes antithétiques. Celui du Christ est réputé pacifique, juste, favorable au développement des hommes et des sociétés dans lesquelles ils vivent. Celui de Mahomet est guerrier, injuste, rétrograde, car ceux qui croient en sa parole sont réputés prisonniers d'un obscurantisme qui s'oppose en raison, je cite encore, de son influence conservatrice et stationnaire aux avancées de la civilisation et aux influences positives de l'éducation et de la science occidentale. Tempérance contre violence, élévation contre dégradation, lumière contre obscurantisme, noble méprisable, progrès contre stagnation, telles sont les différentes paires thématiques et opposées qui organisent, de façon plus ou moins explicite ou, implicite, les représentations et les jugements de valeur relatifs à la religion chrétienne d'une part et à l'islam d'autre part, et qui renvoient par ailleurs à une autre partition, celle de l'Occident et de l'Orient. Cela, me semble-t-il, n'est pas sans intérêt pour mieux comprendre l'histoire politique et militaire des temps présents, où domine, en dépit de changements profonds qu'il ne s'agit pas de nier, une Weltanschauung, pour le dire comme ça, structurée par des oppositions héritées pour partie de cette époque et réhabilitée aujourd'hui par les tenants du choc des civilisations qui pensent développer des analyses neuves et audacieuses alors qu'ils ne font que répéter de très vieilles anciennes. Montesquieu, pour revenir à lui, déjà considérait, je cite, « que la religion mahométane ne parlait que de glaive et agissait encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qu'il a fondé. Et dans un court chapitre de l'esprit et des lois, Montesquieu, qui s'appuie sur deux exemples, mais qui n'en conclut pas moins une loi générale, intitule donc ce chapitre, qui est évidemment la conséquence et la loi générale qui tire de ces deux exemples, qui est ainsi énoncé, que le gouvernement modéré convient mieux à la religion chrétienne et le gouvernement despotique à la mahométane. De ce point de vue-là, un certain nombre de discours n'ont pas beaucoup changé, et la loi que Montesquieu prétend avoir découverte et qu'il lègue à la postérité en faisant le titre d'un chapitre de son œuvre me paraît, hélas, toujours d'actualité. L'arabe, enfin, de point, une bête féroce. Le sauvage est animalisé, le barbare, lui, on va le voir, est bestialisé, comme le prouve le vocabulaire couramment employé pour désigner les Arabes. Précisons que la distinction animalisation-bestialisation est, pour emprunter une terminologie à Max Weber, cette distinction est idéalypique, ce qui veut dire qu'elle ne doit pas être absolutisée. Dès lors qu'il se révolte, en effet, le noir peut et redevient une belle fauve qu'il faut traquer et abattre massivement, si nécessaire. Du moins, le noir a-t-il la possibilité, en fonction de son comportement, de changer de catégorie en étant soit un bon, soit un mauvais nègre, qui se verra donc appliquer des traitements différents. Un exemple illustre exemplairement, c'est le cas de le dire, ce basculement. Après une longue période pacifique, marquée par la conclusion de nombreux traités avec les autorités coloniales allemandes, les héréros sont massivement privés de leurs terres, de leur bétail et parfois de leurs femmes, et ils se soulèvent en janvier 1904 et massacrent près de 200 colons allemands. Le 2 octobre de la même année, le général von Trotha, en accord avec l'empereur Guillaume II, donne un ordre, je cite, puisque c'est le terme allemand, d'extermination. Et il est précisé que chaque héréro, je cite encore, trouvé à l'intérieur des frontières allemandes, celles de l'Afrique, pas celles de l'Empire, pas celles de l'Allemagne, armé ou non, sera désormais abattu. Le bilan de cette campagne et des mesures qui lui ont succédé est éloquent. Sur une population totale estimée à 80 000 personnes, on comptait moins de 15 000 survivants en 1911. À la même époque, des camps de concentration, c'est une citation encore, ce n'est pas une invention ou une lecture rétrospective de ma part, ainsi nommés dès le mois de janvier 1905, ont été construits et les héréros massivement internés. Et le terme de Concentrationslager venait de faire son entrée dans la langue politique et juridique allemande, après que les Espagnols aient inventé le mot et la chose à Cuba en 1896. Toujours comparé à un animal sauvage, sournois et dangereux, l'arabe doit être pourchassé et souvent repoussé dans les confins pour assurer le triomphe des Français. Je parle de la période coloniale du 19e. On va voir que les liens, cela se poursuit jusqu'en 1962. C'est une hyène ou une bête féroce qui doit être refoulée au loin et rejetée pour toujours dans les sables du Sahara, affirme un homme au 19e siècle, fervent défenseur d'une politique brutale de déplacement massif et forcé des populations d'Alger. Chassons-les donc, n'employons plus à leur égard cette générosité hors de saison, qu'ils partent à la première sommation ou qu'ils s'attendent, en punition de leurs crimes, à souffrir de terribles représailles, ajoute un autre. Pour le général Bugeaud, encore loué, entre autres, dans un ouvrage de grand public par Alain Gérard Slama, dans un ouvrage paru chez Gallimard, dans la collection Gallimard Découverte, donc ce n'est pas un petit ouvrage marginal, c'est un ouvrage destiné aux étudiants et aux collégiens. Pour les généraux du jour, donc, les indigènes, je cite, sont des renards que l'on doit, je cite encore, fumer à outrance lorsqu'ils fuient dans des cavernes pour échapper aux armées françaises lancées à leur poursuite. Et les armées françaises, l'armée d'Afrique, comme on disait alors, va d'ailleurs pratiquer à plusieurs reprises les enfumades pour exterminer les tribus qui ont échappé à leur poursuite. Dans tous les cas, et quelles que soient les orientations et les moyens défendus par ceux que j'ai cités, la bestialisation de l'arabe est presque toujours articulée à des prescriptions et à des conduites qu'elle autorise et légitime. Il n'est plus question désormais de domestication, mais de guerre, de chasse et de battues impitoyables. Face aux barbares qui font peser sur la civilisation une menace mortelle, tout est permis puisqu'ils ne laissent d'autre alternative que de les détruire ou d'être détruits par eux. C'est pourquoi la violence n'est plus circonscrite comme elle pouvait l'être dans le cas du noir domestiqué, par exemple. Dans le cas du barbare, elle tend au contraire à se déployer sans entrave, puisqu'aucune considération économique relative à l'exploitation de la force de travail ne vient borner cette violence. À la bestialisation correspond donc une autre économie de la violence que soutient une autre économie affective. Contrairement aux nègres domestiqués d'Afrique ou d'Amérique, avec lequel le blanc entretient souvent des relations paternalistes, le barbare suscite, lui, la peur, l'indignation et la haine, et toutes ces passions créent les conditions passionnelles propices, lorsque les circonstances s'y prêtent, à de nombreux massacres et exactions. Il est des conceptions de l'autre et des projets de colonisation de peuplement qui sont à l'origine de véritables permis de chasse à l'homme. Ceux qui nous intéressent appartiennent évidemment à cette catégorie, comme en témoignent les méthodes et les pratiques de l'armée française présente en Algérie à partir de 1830 et jusqu'en 1962. 117 ans plus tard, le 7 janvier 1957, et je remercie Gabriel Berriès d'avoir exhumé ce superbe tract, la revue des forces terrestres de l'armée française publie donc un tract élaboré par les services spécialisés de l'action politique et psychologique, puis massivement diffusé. Sous le titre « Voici l'image du Félaga », on découvre le dessin d'une sauterelle affublée d'un masque et du texte suivant. Je cite « Partout où le Félaga passe, il ne reste plus rien. Il prend votre argent, il prend vos fils, il détruit les écoles, il ruine les dispensaires, il brûle les récoltes, il coupe les poteaux du téléphone et du télégraphe. Son passage signifie ruine, deuil, larmes, famine, misère. Vous luttez contre les sauterelles, luttez aussi contre le Félaga, la sauterelle d'aujourd'hui. Rendez-vous, rangez-vous résolument aux côtés de l'armée de pacification. » Fin de la citation. Après l'élection de De Gaulle à la présidence de la République, toute nouvelle, le plan Châle, du nom du général qui l'a conçu, est adopté. Ce plan Châle consiste en la combinaison d'opérations militaires et aériennes terrestres d'envergure qui font office, selon le délicat vocabulaire de l'époque, de rouleaux compresseurs. Des commandos de chasse, c'est l'expression employée, de 15 à 20 hommes sont ensuite chargés de harceler les rebelles et, selon l'expression délicatement utilisée aussi, de recueillir des renseignements. On sait comment ce recueillement des renseignements était alors pratiqué. Ravalé ici au rang d'insectes nuisibles qui sèment la désolation, bestialisé ailleurs, puisque le Félaga est aussi assimilé dans d'autres textes élaborés par l'armée française à un scorpion ou à un chacal, il doit être dans tous les cas éradiqué et les populations civiles massivement déplacées par la force et la terreur employées par les militaires. Je rappelle qu'en 1960, le nombre d'Algériens déplacés par la force atteignait 2 150 000 habitants, soit un quart de la population totale. Chiffre donné par Bourdieu dans Le déracisme, ouvrage qu'il a écrit avec Sayad et qui est publié dès 1964. Ça tombe très bien puisque j'en ai terminé quasiment. Loin d'être un épiphénomène conjoncturel, la remarquable continuité du bestiaire colonial, peuplé dans le cas des Arabes, d'animaux ou d'insectes volants, rampants ou marchands, toujours féroces et destructeurs, tendrait à prouver que ce bestiaire est un élément de structure de la domination établie par les Français en Algérie. Plus précisément, il participe à la pérennité de cette dernière en fournissant aux hommes chargés de défendre cette domination des représentations articulées à des pratiques de violence extrême qu'elles légitiment et qu'elles ont d'ailleurs continué de légitimer dans d'autres cas, puisque je ne peux pas ne pas évidemment penser ici à la façon dont les Tutsis ont eux aussi été pas animalisés, mais effectivement bestialisés. Merci.